Léa Favreau, tu as saisi l'opportunité que donnait le service culturel de Rennes 2 avec sa carte blanche pour monter et proposer une exposition et la gérer entièrement. Donc ça s'appelle Habiter Haïti, Haïti Habiter. Le commissariat d'exposition, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux faire plus tard ou...
Ouais, tout à fait. C'était vraiment quelque chose que j'envisageais. Donc l'opportunité du service culturel, c'est vraiment bien présenté dans ce cas-là. Pourquoi pas avoir. C'est pas encore fixé, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse réellement. En tout cas, de participer à la monstration, à l'exposition des artistes, et en l'occurrence haïtiens. Donc je suis en Master 2 Histoire et Critique des Arts à Rennes 2, en option recherche. Donc je mène une recherche sur les pratiques artistiques contemporaines en Haïti.
T'as déjà eu une expérience dans le commissariat d'exposition avant celle-là ?
Non, pas particulièrement. J'avais assisté Mathieu Desailly, un graphiste avec qui j'ai travaillé pour ses expositions Animax Musica. Mais sinon, jamais toute seule, du moins. Bah, le service culturel était là justement pour m'assister et m'accompagner. Sachant que ça a été pour la communication, qu'ils m'ont apporté de l'aide ou simplement pour la scénographie. Mais sinon, c'est moi qui prenais les décisions et qui voyais comment je voulais mettre ça en place.
Et donc, comment est-ce que ça s'est démarré, cette collaboration avec Rennes 2? T'as entendu parler de l'appel à projet?
Ouais, tout à fait.
Et puis, t'as décidé de te lancer?
Ouais, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je suis quelqu'un qui aime bien les projets. En plus de ma recherche, j'aime bien être active et participer à l'émergence, justement, de nouveaux artistes ou d'artistes en devenir. Et je me suis dit que c'était une belle opportunité et qu'en plus, l'université était plutôt ouvert à ce genre de propositions, donc je me suis lancée.
Donc tu as soumis le projet au service culturel, ensuite le projet a été retenu.
Ouais, c'est ça.
Donc ce qui t'amène aujourd'hui à présenter au public cette exposition dont
tout
on a
à
parlé,
fait.
Habiter Haïti, Haïti Habiter. D'où est-ce que vient cette passion pour Haïti? D'un voyage peut-être?
Non, à la base non, tout simplement. Il y a eu l'exposition Haïti de siècle de création artistique au Grand Palais à Paris en 2014-2015. J'avais déjà un petit intérêt pour Haïti, mais vraiment ça m'a amené à m'intéresser encore plus à cette culture et aux arts plastiques notamment. Et c'est ça qui a un peu lancé mon intérêt et ma passion pour Haïti.
Et du coup, t'es jamais allée là-bas ?
Si, si. En octobre 2016, pour ma recherche, je suis allée une quinzaine de jours, notamment au Centre d'art de Port-au-Prince, qui est une institution culturelle vraiment renommée en Haïti. Donc j'ai réalisé un workshop, mais ça m'a aussi permis de commencer mes recherches et de trouver des sources, des œuvres, rencontrer des artistes.
Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de partager cette passion que tu as pour Haïti justement avec les autres?
Ben, il me semble qu'Haïti souffre vraiment d'une image délétère, notamment en Occident, qui est véhiculée par les médias, parce que ça fait vendre, il ne faut pas le nier. Et il me semble qu'on peut véritablement corriger ça, parce qu'il y a une richesse culturelle en Haïti, mais pas seulement. Les gens que j'ai rencontrés sont des gens vraiment extraordinaires, qui sont impliqués dans leur travail, et notamment dans tout ce qui est lié au culturel. Et j'ai vraiment envie de participer à ça, ça me semble important, surtout qu'Haïti est vraiment au cœur du monde contemporain, quand on voit que c'est la première nation à être indépendante voilà, par les esclaves. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important auquel je souhaite participer.
Et du coup, justement, quelle image, quel stéréotype est-ce que tu veux déconstruire dans cette exposition?
Il y a tout ce qui est lié à l'aide humanitaire qui est assez ambigu parce que déjà en Haïti, c'est assez mal vu. Et bon, les ONG font un travail qui certes est bénéfique à certains endroits, mais qui par moment n'est pas du tout adapté. Et puis aussi tout ce qui est lié à la misère. Bon, certes, Haïti est un pays qui est en difficulté, on ne peut pas le nier. Mais il y a autre chose et le peuple haïtien fait preuve d'une certaine résilience. C'est ce qui est toujours dit, mais c'est vrai que c'est le cas. Et moi, j'avais envie de déconstruire ces stéréotypes-là et notamment tout ce qui a été lié au post-séisme qui a vraiment ravagé l'image d'Haïti, quoi. Il y a autre chose, Haïti c'est aussi une culture, notamment dans les arts plastiques mais également en littérature, on a des poètes, voilà, on a vraiment plein de choses qui sont émergentes. C'est aussi une île qui est à découvrir, qui est partagée avec la République dominicaine, mais avec des paysages magnifiques, des lieux vraiment fantastiques, un patrimoine aussi historique. Voilà, il y a plein de choses en Haïti, même si on peut pas nier que c'est compliqué de se déplacer en Haïti, d'y aller. Il faut avoir quand même des contacts sur place, des gens en qui on a confiance pour que tout se passe bien.
Et toi, tout s'est bien passé quand tu es allée là-bas ?
Très très bien, parce que j'avais ces contacts au Centre d'art de Port-au-Prince, notamment avec la directrice Louise Perrichon, mais aussi la directrice de Photocombit, donc l'association justement dont je présente les photos. Et elles se sont bien occupées de moi, elles m'ont permis vraiment de rencontrer plein de gens et de me sentir à l'aise dans un pays où, bah, effectivement, quand on n'est jamais allé, ça peut paraître un peu... On a un certain décalage, en tout cas. J'ai rencontré Tatiana, la directrice, là-bas, parce qu'elle travaille également au Centre d'art. Et donc, après, en rentrant en France, j'ai découvert le travail de Photocombit, hein, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette comme initiative. Et en plus, les photos avaient des qualités esthétiques superbes. Enfin, moi, il me semblait, en tout cas, de manière subjective. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée aussi de présenter ces photographies.
Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que fait Photocombi justement?
Alors donc, c'est une association qui est basée à Miami, mais surtout en Haïti. Et ses membres mettent en place des workshops sur tout le territoire haïtien pour permettre à des enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes de pratiquer la photographie et de ce fait de développer une pratique photographique en Haïti, ce qui est pour l'instant pas tellement développé finalement. Et donc, ils permettent aussi la vente des clichés faits notamment par les étudiants pour qu'eux puissent aussi subvenir à leurs besoins et notamment se financer des études.
Ok, donc là, toutes les photos qu'on va voir à l'exposition, c'est des photos
qui ont été réalisées par de jeunes photographes haïtiens.
Qui ont été accompagnés justement par cette association.
Exactement.
D'organiser toute cette exposition, c'est un travail sur du long terme, t'as commencé?
Quand même, ouais, parce que donc déjà le dossier, je l'ai mis en place au mois d'octobre, il me semble. Après, j'ai eu la validation du service culturel. Et puis ensuite, ça a été de très nombreux échanges avec Tatiana, justement, pour se mettre d'accord sur la sélection de photographies, comment elles allaient être présentées, quelle était la thématique choisie. Donc oui, c'est quand même du travail au long cours.
Ouais. Et du coup, quelles ont été les étapes un peu successives dans les grandes lignes?
Déjà, il y a eu la sélection des photographies qui découlait aussi du choix de la thématique que j'ai choisi moi, en tout cas, qui me semblait pertinente, qui est liée à l'architecture. Enfin, surtout la relation des Haïtiens à l'architecture, qu'elle soit rurale, urbaine, patrimoniale, etc. Et donc, on a choisi ces photographies. Ensuite, il a fallu définir les modalités d'exposition, donc quel format, quel type de support, combien de photographies, ce genre de choses. Et puis ensuite, la communication, parce que c'est ce qui est le plus important aussi à notre époque, faire que les gens vont venir et découvrir l'exposition. Et là, on est dans les derniers détails, donc bientôt le montage, le vernissage.
C'était pas compliqué de concilier ça avec tes études quand même à côté?
Non, ça va, parce que j'ai toujours eu l'habitude de mener plein de projets de front. J'ai fait 2 licences en même temps, un double cursus, donc ça m'effrayait pas particulièrement. Et puis j'aime bien l'action, j'aime bien être occupée, donc...
Je vois ça. T'as fait quoi comme double licence?
Alors, histoire de l'art et art plastique. Ce qui permet d'avoir aussi une... comment dire, quand on rencontre des artistes, on a aussi des outils pour comprendre leur travail. Et je pense que c'est assez bénéfique en histoire de l'art. Donc ça, c'est la photographie qui accompagne la communication. Donc c'est un homme avec un t-shirt violet dans un ensemble architectural orange. Donc moi, je sais juste qu'elle a été prise à Jacmel, qui est une ville du sud d'Haïti, qui est notamment connue pour son architecture historique, le centre. Mais là, je ne sais pas précisément où est-ce qu'elle a été prise, mais il me semblait qu'il y avait des réelles qualités esthétiques, notamment dans la construction de l'image, et qu'en plus, ça participait à une autre évocation d'Haïti, c'est-à-dire qu'en voyant cette image, on ne pensait pas nécessairement que c'était Haïti, et donc on n'était pas dans un cliché de l'île, voilà. Et je trouvais qu'elle me parlait, en tout cas. Parce que c'est ça aussi le choix des photographies. Par moments, c'est purement subjectif. On ressent
c'est
quelque
ça.
Chose.
C'est des coups de cœur.
Voilà.
Et est-ce que tu as pu échanger avec la personne qui a pris cette photo?
Alors non, pas particulièrement. À l'origine, je souhaitais que les photographes proposent un petit texte qui accompagne chacune de leurs photographies. Mais en fait, Tatiana, donc la directrice de Photocombi, a essayé de les joindre. Mais parfois, ils habitent dans des régions un peu reculées d'Haïti où il n'y a pas nécessairement de connexion Internet. Ils ne viennent pas forcément à Port-au-Prince. Donc c'était relativement compliqué, ce qui fait que j'ai fait le choix de ne pas avoir justement de commentaires ou de textes accompagnant les images, sachant que bien évidemment, je suis là pour expliquer et pour proposer, voilà, s'il y a besoin d'explications en plus, je suis tout à fait ouverte à la discussion. Donc là, c'est une photographie qui s'appelle La Koulakei, donc c'est la cour de la maison en créole, et on voit une jeune femme au petit matin dans un univers végétal qui sort de sa maison, il y a son linge étendu. Donc moi, cette photo, je la trouve magnifique. On ressent vraiment ce que c'est le petit matin en Haïti parce que les gens se lèvent très tôt. Ils se lèvent vers 5h du matin et sont déjà en activité. La vie commence parce qu'il fait nuit très tôt. À 17h30, il fait nuit noire à Port-au-Prince, en tout cas. Et je la trouvais belle parce qu'à la fois, on était dans l'intimité du foyer et en même temps, on sentait un peu la fraîcheur du matin avant que la chaleur de la journée tombe. Voilà, donc celle-ci, ce sera un grand format et je pense que ça va être très, très beau. Donc là, c'est une photographie qui est au Palais Sans Souci, qui se situe au Cap Haïtien, qui est un palais qui a été construit par le roi Christophe, qui est un des héros de l'indépendance haïtienne. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que là, on a sûrement un chantier de conservation, ou du moins de rénovation. Et à la fois, cette image, je trouve qu'il y a des réminiscences du passé par rapport à l'esclavage en Haïti, à ce qui a pu se passer dans le monde colonial. Et je trouvais ça vraiment intéressant, ce retour un peu au passé, cette évocation du moins. Surtout qu'on a d'autres photos dans l'exposition qui montrent le palais Sans Souci et on perçoit vraiment l'architecture c'était une architecture grandiose pour l'époque et pour l'espace aussi, parce qu'on n'avait pas ce type d'architecture aussi en Haïti.
Mais justement, ça me fait penser, tu as dû travailler aussi sur les points historiques un peu de Haïti.
Mais ça, c'est lié aussi à ma recherche, tout simplement, parce qu'effectivement, Haïti a une histoire tellement spécifique et singulière. Forcément, on doit s'intéresser à ce qui s'est passé et c'est passionnant. C'est juste passionnant parce que c'est vrai que c'est la première nation à devenir indépendante à l'initiative des esclaves. Et ensuite, ça va être des grands chefs, des grands leaders, mais qui, à chaque fois, vont devenir eux-mêmes des despotes. Et ça va être ça pendant 2 siècles. Et donc, il y a des choses qui sont véritablement passionnantes et en même temps parfois terrifiantes parce qu'on se dit, est-ce qu'un jour ça va changer, quoi ? Il y a ça aussi, mais c'est passionnant l'histoire d'Haïti et c'est vraiment quelque chose de singulier. C'est pas comparable avec d'autres pays, même d'autres espaces dans la Caraïbe, où c'est différent, quoi. Finalement, ce sont les derniers captifs arrivant d'Afrique qui ont mené la révolution haïtienne et non pas les descendants d'esclaves qui étaient déjà là depuis plusieurs générations. Et donc on a une scission entre ce qu'on appelle les Bossals, ces premiers captifs, et les créoles, donc les descendants des premiers esclaves, qui eux, au final, ne souhaitaient pas plus que ça renverser le système qui était en place. Et cette scission, en fait, elle reste présente dans la société haïtienne. Encore aujourd'hui, on parle de Bossal et de créole, alors que finalement, il n'y a plus de Bossal, bien évidemment. Mais ça reste présent et ça renvoie aussi à un univers urbain et un univers rural qui sont la plupart du temps aussi en confrontation, parce que ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de vie et les mêmes habitudes. Donc là, c'est une image, on voit 2 jeunes hommes devant une sorte de case, enfin une petite maison en tôle rose sur laquelle on voit rapidité et banque. Et en fait, ce sont des banques bolettes. Donc c'est la loterie haïtienne qui est très très populaire, notamment dans la région de Port-au-Prince. Donc les gens vont parier quelques gourdes pour essayer de gagner, parce que les gourdes, c'est la monnaie locale. Parce qu'en Haïti, on a les gourdes et les dollars américains. Donc il faut jongler entre les deux. En fonction de la monnaie, on ne paye pas avec la même chose. Et donc là, les gens viennent dans ces banques et c'est une véritable industrie parallèle, en tout cas. Et l'architecture est intéressante parce que ce sont toujours des petites maisons comme ça qui sont très colorées, très visibles, très contrastées. Et ça me semblait intéressant de témoigner, en tout cas, de cet aspect-là de la vie haïtienne. Donc cette image-ci, c'est une image du marché en fer de Port-au-Prince. C'est un des marchés les plus connus de Port-au-Prince. Donc on trouve à la fois de la nourriture, mais aussi des animaux, des fruits, des légumes, des choses aussi pour les cultes vaudous. Et l'architecture, elle me semblait intéressante à montrer parce qu'en fait, c'est un élément en métal qui a été acheté à la France au 19e siècle. Et il a été détruit au moment du tremblement de terre de 2010. Il a été entièrement reconstruit et là, il y a 2 mois, il a rebrûlé de nouveau. Et donc, à la fois, il y avait cet aspect de la vie sociale haïtienne parce que c'est vraiment un endroit capital dans Port-au-Prince et en même temps, témoigner un peu aussi de l'actualité de ce qui se passe en Haïti. Voilà. Et c'est vraiment une architecture singulière, très reconnaissable. Avec ce rouge et ce vert. Et donc là aussi, il y a cette photo avec des masques en papier mâché de monstres. Donc là, ça a été pris à Jacmel, parce qu'à Jacmel, il y a un carnaval qui est internationalement reconnu, où les gens paradent justement avec ces masques en papier mâché, qui sont une spécificité du lieu. En Haïti, il n'y a pas d'autre endroit où on crée ce type de masque. Et c'est vraiment des grandes fêtes où on a aussi de la musique, où les gens sont à pied. Et voilà, donc c'est très coloré, très chatoyant. Donc c'était aussi pour montrer cette spécificité haïtienne. J'ai fait le choix à chaque fois d'avoir une sorte de cohabitation entre une présence humaine et une forme architecturale, parce que ça me semblait vraiment important, d'où le nom de l'exposition, d'avoir cette relation de l'habitant à l'espace, comment il habite cet espace, et en même temps comment l'espace prend vie grâce à cette vie. Et donc je voulais vraiment que ce soit pas quelque chose de désincarné ou simplement de la photographie de paysage. Il fallait qu'il y ait cette présence humaine qui soit perceptible. Sachant que dans les photographies, même si l'idée c'est de donner une autre image d'Haïti, c'est pas non plus de s'extraire de ce qui se passe en Haïti et de totalement effacer ce qui est lié à la misère, à la difficulté des gens non plus. Ça c'est aussi, même s'il y a une forme d'esthétisation par moment de par les photographes, mais ce qui est un choix, bon, il y a ça aussi. Cette volonté de montrer Haïti telle qu'elle est et de l'intérieur, parce qu'aussi c'est des photographes haïtiens et nous les images qu'on connaît d'Haïti, généralement c'est des images de reporters étrangers qui viennent poser un regard, donc voilà, un regard occidental la plupart du temps, et qui nécessairement ne vont pas montrer la même chose que de jeunes haïtiens, voilà, qui souhaitent montrer leur pays. Et là, il y a cette photographie que je trouvais intéressante. Donc, c'est une vue de nuit, parce que les gens, le soir, donc il fait nuit à 17h30, mais souvent, ils se retrouvent dans la rue pour manger des fritailles. Les fritailles, c'est de la viande qui est grillée, donc de la viande de porc, ou voilà. Et c'est accompagné de la Prestige, qui est la bière nationale, et qui est une fierté en Haïti. Et donc, comme on voit en plus le logo de la Prestige, c'est un moment de convivialité dans la journée qui est vraiment important en Haïti aussi. Et voilà, on arrive à la fin. Donc, On est sur 23 photos.
Et si on peut revenir un peu sur toi, ton voyage, à toi, ton expérience, tu y allais avec quel objectif à la base ?
C'était déjà avoir une première expérience d'Haïti, puisque je travaillais, ma recherche portait sur Haïti, donc ça me semblait un peu étrange de travailler sur Haïti sans y être allée. Donc je souhaitais aller au centre d'art parce que c'était une structure qui me permettait vraiment d'avoir un accueil, des gens qui savaient ce que j'allais faire, qui pouvaient m'accompagner. Et en même temps, l'histoire du centre d'art, elle est très importante en Haïti parce que dans les années 45, le centre d'art est créé par un Américain qui souhaite développer les structures permettant la diffusion de l'art haïtien, parce qu'il n'y en a pas en Haïti. Et donc ça va permettre à tout l'art haïtien de se développer, ce qui fait que ça me semblait vraiment un endroit important. Et puis moi, j'y ai effectué un workshop. Donc, comme j'avais ma formation en art plastique, j'ai fait une formation aux pratiques numériques pour de jeunes artistes haïtiens. Donc ça me permettait aussi d'avoir une implication parce que ça me semble important que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire que certes, eux vont m'apporter une forme de connaissance, vont me faire découvrir leur culture, mais il fallait que moi aussi j'apporte quelque chose. Je ne pouvais pas venir prendre et puis repartir, ça me semblait essentiel. Donc j'ai fait ce workshop et en même temps, les membres du centre d'art m'ont emmené voir des artistes, donc à Port-au-Prince, ils m'ont emmené dans des galeries, voilà, on a discuté, ils m'ont montré des œuvres et c'était vraiment super enrichissant pour ma recherche en tout cas. Bon, j'étais jamais allée dans un pays où c'était pas forcément facile. Par exemple, pour se déplacer, c'est compliqué. Moi, je pouvais pas me déplacer toute seule, encore moins à pied. Donc il faut quand même une organisation et ça demande aussi un soutien financier, ce qui fait qu'on peut pas partir comme ça en se disant « bon, allez, je pars de moi ». Ça va être bon.
Ouais. Et t'as eu le temps quand même de t'imprégner de la culture.
Ouais, vraiment. Parce qu'on plonge dans un autre monde, hein, il faut être honnête. On descend de l'avion, ça y est, on est ailleurs. Et ça m'a laissé un souvenir vraiment super. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de retourner. Mais c'est en train de se préparer. Ça nécessite, comme je disais, des conditions particulières. C'était déjà bien. Et puis le retour, en tout cas... Personnellement, n'a pas été forcément facile. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée ici, à l'université, j'étais un peu en décalage. Je ne savais pas ce que je faisais ici. J'avais la sensation que là-bas, j'avais fait quelque chose. J'avais aidé des gens, mais aussi j'avais découvert un univers qui me plaisait. Donc il a fallu me réhabituer à la vie rennaise.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand t'es allée
L'enthousiasme que pouvaient manifester les Haïtiens lorsque nous-mêmes on s'intéressait à leur culture et aux arts plastiques. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer les Atis Résistance, qui est un groupe d'artistes qui vit downtown à Port-au-Prince et qui crée à partir de matériaux recyclés. Et on pouvait véritablement avoir une discussion, parler de leur création, ils nous les montraient, on était chez eux, et il y avait une véritable proximité, et c'est ça m'a semblé intéressant. Et moi, c'est ce que je recherche aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas passionnée par l'art occidental nécessairement, mais on a cette proximité, on a la possibilité d'avoir un véritable échange, d'interroger l'artiste, et aussi de voir les œuvres, entre guillemets, dans leur jus, c'est-à-dire comment elles ont été créées, l'espace de l'atelier, comment elles sont imaginées, comment elles prennent place dans la vie. Parce qu'il y a ce lien aussi, pour les artistes résistants, à la vie et à l'espace social, parce que c'est dans un quartier, les gens savent qu'ils font de la création, donc ça amène un peu de touristes, pas beaucoup, mais un peu. Eux, ils ont mis en place des systèmes d'école où ils proposent sur le temps en dehors de l'école à des jeunes de venir apprendre les techniques pour fabriquer des objets, créer des petites choses en pneus, voilà. Et donc, il y a toute une logique sociale autour. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment... Ça, en tout cas, ça m'a touchée par rapport à mes valeurs et à mes convictions en ce qui concerne le monde de l'art.